l'initiative locale avec Charles Duplaix sur Radio Alpa.
Jeudi 21 octobre, l'association Habitat et Humanisme Sarthe Mayenne présentait leur nouveau projet de pension de famille. L'une de ces deux pensions, la Maison des Tisserands, devrait voir le jour au Mans, au 30 rue de la Blanchisserie, et accueillir ses premiers occupants en mars 2026. Sylvie Morvan, directrice d'Habitat et Humanisme Sarthe Mayenne, nous en dit plus sur le projet.
C'est une résidence collective qui a pour objectif d'accueillir des personnes seules, isolées, pour refaire famille, faire famille dans un collectif. Et cette cuisine, on espère pouvoir donc la financer via ce financement participatif. On espère atteindre les 8000 euros.
Alors pour cette maison des Tisserands, vous avez parlé d'une population très fragile, c'est-à-dire?
Alors, sur les 19 places que nous avons 10 places en maison de relais, donc pension de famille pour des personnes, je dirais, isolées, qui ont un parcours de vie assez fragile, parfois venant de la rue. Et nous avons 9 places en maison, en résidence accueil, pardon. Ce sont des personnes qui nous sont orientées par l'EPSM. Avec des troubles psychologiques. Ce n'est pas nous qui les choisissons. Aujourd'hui, nous sommes subventionnés par la DDETS. Donc, c'est la DETS qui nous oriente. En fait, c'est notre financeur principal qui, lui, finance le logement accompagné, donc l'intermédiation locative, le métier que nous faisons. Et ils ont une équipe qui s'appelle le SIAO, c'est le service intégré d'accompagnement et d'orientation, qui aujourd'hui récolte l'ensemble des besoins du territoire hors bail social et qui va nous orienter les dossiers de candidature. C'est-à-dire que nous ne choisissons pas par nous-mêmes, nous avons des orientations et parmi les dossiers, nous les étudions un à un au sein de l'association et en fonction de leur projet et de leur solidité financière, on les accueille ou pas dans la résidence.
Il y aura une prise en charge particulière pour ce public ?
Oui, tout à fait, bien évidemment. Donc, notre métier à nous, c'est de favoriser l'intervention des partenaires extérieurs, que ce soit les médecins, les infirmières, les aides à domicile, les portages de repas. Nous, on est vraiment l'intermédiaire et on facilite en fait le travail de toutes ces personnes qui gravitent autour des résidents que nous accompagnons. Alors, c'est une résidence avec donc 19 logements. Ce sont des logements dits autonomes, c'est-à-dire que vous avez tout, la cuisine collective, les sanitaires, une chambre. Et donc, chaque personne peut y vivre de manière complètement autonome. Mais encore une fois, la pension de famille, donc sont des petits logements, donc des T1 et des T1 bis, allant de 20 à 30 mètres carrés environ. Donc au Mans, nous avons un immeuble sur 3 étages. Et au rez-de-chaussée, vous avez donc le collectif avec le bureau des travailleuses sociales et des logements dits PMR. Et sur les deux autres étages, des logements type T1, T1 bis.
Vous avez insisté sur l'importance du collectif pendant la conférence, c'est-à-dire, est-ce que vous pouvez développer ?
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on est... l'objectif d'une pension de famille, ça n'est pas de laisser ces personnes seules dans leur logement. Ils sont là pour refaire famille, recréer du lien. Donc notre mission à nous, c'est de les aider à reprendre confiance en eux, de les faire sortir de le logement, de participer à des animations que nous ferons dans le collectif à l'intérieur ou à l'extérieur pour les aider à créer du lien, à reprendre confiance en eux et à devenir de plus en plus autonomes sur leur quotidien.
Est-ce qu'ils sont réceptifs par rapport à ça, vos résidents ?
Oui, en général, oui, tout à fait. Ou en tout cas, même si au départ, il y a un peu d'hésitation parce que chacun a un parcours plus ou moins difficile, c'est notre travail à nous que de les mettre en confiance, que de leur expliquer l'intérêt du collectif. Et au fur et à mesure, la confiance se met en place et les choses avancent. Ça prend du temps, mais c'est notre métier.
Brigitte Glon parlait de personnes en mort sociale. Qu'est-ce que ça veut dire ?
En mort sociale, c'est qu'aujourd'hui, elles n'ont plus aucune interaction. Ne sortent plus, ne parlent plus, hormis peut-être à leur écran de télévision, il ne se passe plus rien. C'est ça la mort sociale, c'est qu'ils ne sortent plus du tout de chez eux, ils ne rencontrent personne. Imaginez-vous le matin, vous levez à 8h et ne pas parler dans la journée jusqu'au soir où vous couchez. Par certaines personnes, c'est ce qu'elles vivent aujourd'hui.
Le projet est soutenu par la Fondation Crédit Agricole, partenaire d'Habitat et Humanisme Sarthe-Mayenne. Un partenariat précieux selon Sylvie Morvan. En effet, comme beaucoup d'associations, Habitat et Humanisme subit les conséquences des coupes budgétaires. Il lui faut donc réinventer son modèle économique, recherche de partenariats et appel à projets, mais aussi financement participatif, comme nous l'explique Sylvie Morvan.
C'est une grande nouvelle, enfin c'est une grande première aussi pour Habitat et Humanisme, grâce donc au Crédit Agricole. On a voulu essayer, puisqu'ils nous ont proposé de nous aider sur ce projet-là, donc on a voulu tenter l'aventure. Pourquoi c'est nouveau pour nous ? Parce que nous allons devoir solliciter l'ensemble des donateurs que nous avons déjà, en trouver des nouveaux, faire tout un plan de communication sur les réseaux sociaux, la presse avec vous, sur notre entourage, perso comme professionnel. Donc on va voir si ça fonctionne.
Un financement participatif qui vient directement répondre au contexte économique complexe que connaissent les associations. Sylvie Morvan nous en dit plus sur la manière dont Habitat et Humanisme est impacté.
Alors aujourd'hui, sur le logement accompagné, nous n'avons pas, nous, de coupe budgétaire à proprement parler, puisque nous travaillons sur le logement. Cependant, les coupes budgétaires sur l'ensemble des sujets de l'économie sociale et solidaire en France font que davantage d'associations font comme nous, vont sur les appels à projets. Et là où avant nous avions peut-être 100 dossiers pour un appel à projet, nous sommes maintenant plus de 400. Donc forcément, il y a malheureusement une concurrence qui se crée. De fait, cette coupe budgétaire, même si elle n'est pas pour nous au départ, on est en bout de chaîne et on la subit aussi. Et après, nous avons aussi nos partenaires qui n'ont plus les mêmes finances. Jusqu'à présent, dans l'ensemble de nos résidences, nous avions des partenaires qui nous offraient l'électroménager, la cuisine, et ils ne sont plus en mesure de le faire, en tout cas avec nous. Ils accompagnent aussi d'autres assos, puisque nous sommes nombreuses. Donc c'est pour ça qu'on a dû développer quelque chose de différent via le financement participatif. Nous, aujourd'hui, les appels à projets que nous travaillons, c'est beaucoup pour l'escale solidaire, donc le tiers-lieu que nous avons ouvert rue d'Alger. Donc ce sont souvent autour d'ateliers sur la précarité alimentaire, la précarité étudiante, la précarité ordinaire. Donc là, d'appels à projets que nous avons en cours, par exemple, nous avons sollicité Electrodépôt, nous avons Casino, nous avons eu Ulu, Lubcop, je pourrais vous en citer plein, mais je vais vous donner l'exemple de ce qu'on a fait avec la cravate solidaire. Nous étions très nombreux à poser cet appel à projet sur la précarité dite ordinaire. Donc nous avons fait le choix d'aller avec la cravate solidaire pour créer quelque chose de différent avec un autre partenaire associatif. Alors pour l'instant, nous n'avons pas été retenus, mais quand on est arrivé, nous, sur tous les dossiers reçus, nous n'étions que 20, et parmi les 20, il n'y en avait que 10 qui allaient être gardés. Rien que pour l'escale, nous avons 10 appels à projets que nous avons fait en moins d'un mois, 10 réponses en moins d'un mois. Ça demandait un travail énorme, pour chacun en moyenne entre 5 et 10 000 euros. Et les réponses arrivent soit fin d'année ou début 2026. Pour des appels à projets, ceux qui seront sur le budget 2026. Aujourd'hui aussi, nos partenaires nous demandent de plus en plus de rigueur et sont de plus en plus exigeants aussi sur les réponses aux appels à projets. Donc il faut être de plus en plus professionnel. Il y a tout l'historique, le projet, pourquoi on veut porter ce projet, le budget dans toutes ces lignes, de manière de plus en plus détaillée. Donc sur un appel à projet, il y a pratiquement une vingtaine d'heures à chaque fois.
Donc concrètement, ce qui se passe, c'est une concurrence entre les associations, c'est ça ?
Mais malheureusement, oui, alors que ça ne devrait pas l'être, en fait, finalement, puisque nous sommes, quand vous êtes 200 à répondre à un appel à projet, forcément qu'on est concurrent. Pourtant, on n'est pas du tout sur les mêmes secteurs, puisque parfois, moi, je vais avec des associations qui travaillent sur d'autres types de précarité. Moi, je suis sur la précarité alimentaire, certains sont sur l'isolement social. Enfin, on n'est pas parfois tout à fait sur les mêmes sujets, mais on est quand même en concurrence sur ces appels à projet. Donc oui, malheureusement, c'est le cas.
Est-ce que vous estimez qu'il y a une sorte de transfert du modèle de l'association vers le modèle de l'entreprise, du coup ?
Donc oui, aujourd'hui, une association doit effectivement être gérée aussi sur la manière économique. C'est important. L'économique, on ne peut pas faire sans. Disons que nous, en tant qu'association, nous ne faisons pas de rentabilité. Nous ne sommes pas là pour générer absolument de l'argent. Nous travaillons pour finir à l'équilibre à la fin de chaque année. Mais que du coup, ces appels à projets ne sont pas des accompagnements pluriannuels, hein. Chaque année, on doit recommencer. Très peu d'accompagnements sont pluriannuels aujourd'hui. C'est-à-dire que vous faites un appel à projet, c'est OK pour 2026. Et puis septembre 2026, on remet ça pour 2027. Et éternellement. Et ça, c'est chronophage, c'est beaucoup d'énergie. Voilà, il ne faut pas lâcher, quoi.
PLF 2026 prévoit 54% d'économies sur l'économie sociale et solidaire. Est-ce que ça vous impactera ? Dans quelle mesure ? Est-ce que vous pouvez déjà le prévoir ? Ou alors est-ce que c'est encore très flou ?
Je pense que c'est encore un peu flou pour le prévoir, mais forcément, s'il y a un impact dessus, il y aura forcément un impact direct ou indirect. Je vous le dis, ça dépend sur le sujet sur lequel il y aura une coupe budgétaire. Mais au final, sur tous les appels à projets autour, il y aura forcément un impact sur les montants, le nombre de personnes qui y répondront. Donc de manière indirecte, oui, forcément, je pense qu'on sera impacté. Mais attendons d'avoir le détail pour pouvoir en parler.
Alors une dernière question, le conseil départemental a communiqué sur une crise du logement social dernièrement. Est-ce que ça a un impact sur vos missions ? Peut-être, est-ce qu'il y a davantage de personnes qui se tournent vers votre association ?
Ah oui, énormément. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, déjà nous sommes au Mans, l'une des villes avec le taux de pauvreté le plus fort de la région des Pays de la Loire. On voit, nous, effectivement, une recrudescence de demandes et de candidatures. Et on voit surtout des parcours de vie qu'on n'avait pas forcément avant. Moi, j'ai énormément de personnes de familles monoparentales, des personnes qui travaillent mais de façon précaire, qui ne trouvent pas de logement. Et puis on a aussi de plus en plus de personnes qui ont des troubles psychologiques, qui n'ont plus de structure aujourd'hui. Donc oui, La crise du logement, elle est bien réelle. Aujourd'hui, nous n'avons pas assez de logements pour répondre à tout ça. C'est pour ça que la mission d'un des membres de mon équipe, c'est vraiment d'aller chercher des logements complémentaires via les propriétaires solidaires pour essayer de pallier petit à petit à ce besoin. Mais oui, effectivement, il y a un vrai besoin.
Lors de la conférence de presse, l'association inaugurait également une exposition photo. Pour l'association, il s'agit de montrer les visages des bénéficiaires.
Pour fêter les 40 ans, rien de plus beau que de montrer finalement les personnes que nous avons accompagnées, qui mieux qu'elles peuvent parler de ce qu'elles ont vécu. Donc l'idée, c'était vraiment ça, de montrer des portraits de familles, de personnes qui sont passées par Habitat Humanisme, grâce à qui ils ont pu reprendre pied dans leur vie. Donc ils ont été choisis sur l'ensemble de notre territoire national. Voilà, c'est plus par rapport à ça, en fait, que nous avions envie de les montrer, parce que c'est, je dirais, la plus belle façon de montrer l'accompagnement qu'Habitat Humanisme a.
Est-ce que ça permet de lutter contre des clichés aussi, peut-être ?
Est-ce que ça permet de lutter contre des clichés ? Bonne question, oui, je pense, tout à fait. Ça permet de voir un peu tout le panel de personnes que nous accueillons aujourd'hui. Comme je vous le disais, on a vraiment de tout. On a une cible très, très large. Famille monoparentale, personnes seules, personnes porteurs de handicap, personnes issues de l'immigration aussi, personnes qui ont parfois eu un parcours de vie dans la rue. Donc, on a une cible très large. Et c'est vrai, vous avez raison, ça peut certainement aussi faire tomber quelques clichés.
Pour participer au financement de la Maison des Tisserands, rendez-vous sur le site d'Habitat et Humanisme Sarthe-Mayenne.
L'initiative locale avec Charles Duplaise sur Radio Alpa.